allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, comme chaque début de mois, nous sommes dans notre version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Julien Clémenceau de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour.
Nous accueillons Michel Roussin. Bonjour Michel Roussin.
Bonjour.
Michel Roussin, je ne sais pas vraiment s'il est nécessaire de vous présenter, tant vous êtes au cœur de l'actualité française et franco-africaine depuis plusieurs décennies. Vous êtes aujourd'hui chargé de mission auprès de la direction et de la présidence du groupe Bolloré, mais retraçons brièvement quand même votre parcours pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Après votre passage à l'école des langues Zo, vous entrez dans la gendarmerie, puis on vous retrouve aux côtés d'Alexandre de Maranche, à l'époque le patron du contre-espionnage français. De fil en aiguille, vous entrez dans le monde politique pour servir Jacques Chirac, d'abord maire de Paris, puis Premier ministre, ce qui vous vaudra quelques déboires judiciaires, dont la plupart se solderont par des relaxes. Mais en 1993-94, vous êtes ministre de la coopération du gouvernement Balladur, ce qui vous amène à sillonner l'Afrique. C'est une découverte, l'Afrique, à l'époque, pour vous ?
Non, ça n'est pas une découverte parce que lorsque j'étais effectivement auprès d'Alexandre de Maranche, j'ai eu à suivre les problèmes africains. Donc ça n'était pas pour moi une terre inconnue et de surcroît, je suis né au Maroc, donc j'ai cette connotation un peu africaine. Donc, ça n'était pas un monde que je découvrais.
Mais quand vous dites que vous étiez aux côtés d'Alexandre de Maranche pour suivre en particulier les affaires africaines, quel dossier en particulier avez-vous suivi ?
C'était très simple. Hein. On suivait l'évolution de la situation politique et économique dans ces pays avec lesquels nous avions des accords de défense. Donc, c'était un travail tout à fait légitime des services de renseignement. C'est la traditionnelle activité d'observation, de collecte de l'information et du traitement de cette information pour permettre à l'exécutif de prendre des décisions.
C'est un dossier en particulier de cette époque qui vous a marqué ?
Oui, qui m'a marqué, non, mais la situation économique difficile à l'époque du Sénégal qu'il fallait aider. Ce qui m'a donné l'occasion, je le dis très rapidement, de rencontrer le président Senghor. Je suis allé le chercher à l'ambassade pour l'accompagner chez Alexandre de Maranche pour un déjeuner. Et ce personnage extraordinaire se retourne vers moi et me parle de développement. C'était à des années-lumière de mes préoccupations. Et il me dit, il faut aider l'Afrique, c'est en développant sur place les activités économiques. Parce que, vous savez, monsieur le directeur, ni le sable ni la mer n'arrêteront jamais les hommes. 30 ans après, je me souviens de cette phrase dans cette bagnole.
De Léopold Sédar Senghor. Alors, jusqu'à cette époque-là, vous êtes plutôt dans la sphère publique. Qu'est-ce qui vous amène à vous retrouver dans le secteur privé, en particulier chez Bolloré ?
Ah, j'ai un... Avant d'être chez Bolloré, j'ai été dans une grande société de BTP, Eiffage, et j'étais dans le sud-est asiatique. Donc j'ai toujours eu un appétit pour... et je ne pouvais pas me remettre à travailler sur l'Afrique après avoir été le ministre, entre guillemets, le ministre de l'Afrique. Donc je suis parti dans le sud-est asiatique pendant 4 ans pour Eiffage, Chine, Thaïlande, etc. Bref, le sud-est asiatique. Et un jour, il y a eu cette crise dans le sud-est asiatique et j'ai été obligé de rentrer à Paris. Et là, il fallait trouver autre chose.
La crise financière.
Voilà, oui, de cette époque-là. Et là, Vincent Bolloré, que je connaissais, m'a dit « Bon, maintenant le délai de viduité est passé. Est-ce que ça t'intéresserait, maintenant que tu reviens d'Asie du Sud-Est, de rejoindre le groupe ?» Et pour moi... j'avais quand même cet attachement à l'Afrique, j'ai bien entendu immédiatement répondu oui. Et je me suis embarqué dans le groupe Bolloré.
Si on fait le total, Michel Roussin, vous êtes au carrefour de l'armée, des services de renseignement, de l'action politique et des affaires en Afrique, c'est pas un mélange un peu sulfureux ?
Non, moi je ne le prends pas comme un mélange sulfureux. Je pense que tout est lié. De toute façon, on ne peut pas être coincé dans une discipline et ne pas savoir ce qui se passe ailleurs, que ce soit dans le business, dans le commerce, dans la recherche, dans la politique. Non, c'est un tout. Alors c'est sulfureux parce que dès qu'on parle de services, de renseignements, tout le monde est toujours très très impressionné en se demandant mais ce qui se cache. Or, c'est une fonction qui existe dans toutes les démocraties et même ailleurs. Le renseignement, c'est essentiel pour la bonne conduite de la vie d'une collectivité. Un pays doit avoir un service de renseignement. Donc, je referme la parenthèse, pas sulfureux.
D'accord, nous verrons cela au cours de l'émission peut-être. Au cours de cette émission, nous allons donc parler du groupe Bolloré en Afrique, de sa stratégie, mais aussi plus largement la stratégie économique et commerciale française en Afrique, ainsi que de la santé économique de ce continent. Une première question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Michel Roussin, le président de la République François Hollande, estimait récemment que la France allait mieux. Est-ce que les entreprises françaises en Afrique y contribuent ?
Je peux répondre oui. Je pense que il y a de nouveau un intérêt pour les entreprises françaises de développer une activité en Afrique, mais parce que il y a eu un effort fait par les Africains eux-mêmes pour attirer les investisseurs. Et plus facilement les investisseurs français, parce qu'il y a cette culture commune, la langue, les mêmes méthodes de raisonnement. Et je pense que effectivement l'activité d'entreprise française en Afrique a une répercussion sur la vie économique en France.
De quel effort parlez-vous de la part des pays africains pour attirer les investisseurs ?
Eh bien, il y a d'abord l'amélioration générale du climat des affaires, ce qu'ont souhaité depuis très longtemps les entreprises françaises. Ensuite, il faut, pour attirer les entreprises, qu'il y ait, avec les pouvoirs locaux, les pouvoirs publics locaux, une vraie transparence. C'est-à-dire que les négociations doivent se dérouler entre partenaires. On doit subir une pression fiscale locale qui soit raisonnée et acceptée. Et je pense que dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, cet effort est fait par l'exécutif. Pendant de nombreuses années, on a... Les institutions internationales, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, ont demandé aux pays africains de faire un effort dans ce domaine. Et le message est passé, on a une nette amélioration du climat des affaires.
Michel Roussin, vous dites que les entreprises françaises contribuent au redressement de l'économie française. Est-ce que cela veut dire que ces entreprises rapatrient les bénéfices en France qu'elles font en Afrique ? Par là même, cela ne nuit-il pas au développement économique africain ?
Non, parce que c'est fait de façon tout à fait équitable dans le cadre des règles qui sont édictées par les pouvoirs publics locaux. Il y a une part des bénéfices que l'on peut rapatrier et une autre qui est investie en Afrique. Par exemple, le groupe Bolloré, puisque vous évoquiez mon passage chez Bolloré, réinvestit tous les ans à peu près 350 millions d'euros en Afrique.
Mais... est-ce que la France a regagné un peu du terrain dont on dit qu'elle l'avait perdu sur le continent africain ?
Alors, vous avez raison. La France avait effectivement perdu de son influence. D'ailleurs, récemment, nous étions en Côte d'Ivoire et le Premier ministre s'adressant aux entreprises françaises...
Le Premier ministre ivoirien
Cablan-Duncan a rappelé aux entreprises françaises qu'elles étaient avant le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire et que maintenant nous ne sommes plus que les quatrièmes. Donc effectivement, il y a eu une régression parce que il y a des explications à cela. Très souvent, les états-majors parisiens des sociétés sont frileux et chaque fois qu'il s'agit du continent, on hésite toujours. Mais l'amélioration du climat général, l'évolution en Afrique, l'image de l'Afrique aujourd'hui fait que ces réticences sont moins visibles.
La diplomatie économique voulue par Laurent Fabius jusqu'à son récent départ du Quai d'Orsay montre-t-elle son efficacité au service des entreprises ?
Oui, là, je peux aussi vous répondre parce que j'ai l'expérience des orientations données par les ministres précédents, puisque depuis 1995, j'accompagne des entreprises françaises en Afrique subsaharienne dans le cadre de mes activités au MEDEF international. Donc, effectivement, les diplomates français sont de plus en plus business-minded.
On pense de plus en plus aux affaires.
Aux affaires. Leurs bureaux sont ouverts. Les entreprises peuvent avoir des échanges utiles. Et il n'y a plus cette réticence d'une génération d'ambassadeurs de France dans ces pays-là qui considéraient que s'occuper de business n'était pas du tout dans leurs attributions. L'impulsion qui a été donnée par le ministre Fabius s'est effectivement traduite sur le terrain. Ça n'était pas tout à fait nouveau parce que depuis quelques années, déjà une orientation nouvelle avait été donnée. Mais là, les directives ont été précises et donc on peut dire que le soutien des diplomates français est très utile aux entreprises.
Michel Roussin, il y a une autre action française en Afrique, c'est l'action militaire. Les armées françaises sont très très présentes dans le Sahel. Est-ce que ça facilite le travail des investisseurs français sur place? Est-ce que ça contribue à améliorer l'image de la France ou au contraire, est-ce que ça la dégrade et est-ce que ça entrave l'implantation des entreprises françaises sur place?
Non, ce qui entrave l'implantation des entreprises françaises, si elles avaient l'intention de s'implanter dans certaines zones, c'est la présence du terrorisme et le développement du terrorisme dans la zone sahélienne. Mais vous me posez la question du rôle des armées françaises. Les armées françaises sont là, assurent une mission selon les termes d'un mandat des Nations Unies. Elles font le job, elles sont associées aux forces africaines et cela ne nuit pas, bien au contraire, à l'activité des entreprises françaises qui continuent à avoir, dans ces zones parfois un peu tourmentées et dangereuses, leurs activités.
Ma question ne visait pas seulement les zones précises où l'armée française se trouve, mais toute cette région sahélienne, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Est-ce que l'image véhiculée par la présence militaire française favorise l'implantation des entreprises hexagonales dans ces régions?
Elle rassure sûrement les entreprises hexagonales et très certainement ce que l'on appelle les expatriés et qui sont engagés, eux, dans leur activité quotidienne, dans le cadre d'entreprises françaises qui développent leur activité en Afrique sahélienne.
Julien Clémenceau.
Trouvez-vous normal que Pierre Gattaz, président du MEDEF, passe en revue les troupes françaises stationnées à Abidjan lors de sa récente visite? Est-ce que les chefs d'entreprise ne devraient pas se cantonner à l'économie?
Alors, vous avez tout à fait raison de poser la question, et Pierre Gattaz n'a pas passé les troupes françaises en revue.
Il les a visitées.
Il a rendu visite au patron des forces à Abidjan. C'est un petit déjeuner qui a eu lieu avec une quinzaine de personnes. Et là, le colonel commandant les forces en Côte d'Ivoire a expliqué sa mission, et je crois que c'était une bonne chose que le président du MEDEF aille remercier les forces armées. La France, c'est un tout pour leur action. Et nos compatriotes qui sont à Abidjan sont très heureux, après les événements qu'on a vécu à Grand Bassam, de savoir qu'il y a une force française prête à apporter son concours aux forces abidjanaises.
Michel Roussin, vous faisiez partie il y a une dizaine de jours, vous l'avez déjà évoqué au cours de cette émission, en tant que vice-président du MEDEF international, d'une délégation du patronat français à Abidjan, qui était dirigée par Pierre Gattaz, on l'a aussi dit. Dans la délégation que vous dirigez se trouvait Valérie Lefkoff, la Madame Afrique du groupe EDF. Elle expliquait à Stanislas Daichimier, l'envoyé spécial de RFI, le pourquoi de sa présence.
Un grand acteur comme EDF ne peut pas se désintéresser de cette zone. Ce sont des relais de croissance formidables. Il y a des besoins dans tous les secteurs, la production, les réseaux, l'accès à l'énergie, avec une forte volonté de développer les énergies renouvelables. Et comme vous le savez, EDF a une ambition stratégique de développement à l'international dans les énergies décarbonées. Donc c'est pourquoi cette zone a un fort intérêt pour le groupe.
Et le groupe semble avoir négligé depuis longtemps quand même de se tourner vers ce continent. Et est-ce que ça a changé maintenant et pourquoi?
Mais écoutez, la situation des marchés énergétiques en Europe est aujourd'hui difficile et il faut chercher des relais de croissance en dehors de l'Europe. Et donc, bien entendu, des zones à fort développement démographique et économique, avec de forts besoins énergétiques, sont forcément des zones d'intérêt pour un groupe comme le nôtre. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous regardons avec sérieux les opportunités de cette zone. L'Afrique subsaharienne est dans nos priorités.
C'est un peu vague comme engagement.
Michel Roussin.
Oui, c'est un peu vague. Je suis assez mal placé pour porter un jugement parce que j'étais ces dernières années chez EDF.
Ben vous êtes justement donc, très bien placé.
Lorsque j'entends très bien placé pour Valérie Lefkov, que je connais très bien, son discours est clair et enfin EDF reprend le chemin de l'Afrique. Alors là, elle ne s'engage pas parce que elle n'est en charge de ce département que depuis quelque temps, mais déjà le fait qu'il y ait la volonté de l'état-major parisien d'EDF de voir se développer une activité du groupe en Afrique, je considère moi que c'est une bonne nouvelle.
Ensuite, ça semble complètement fou que ça intervienne seulement maintenant, alors que ça fait plusieurs décennies.
À qui le dites-vous depuis des années, les Africains sollicitent EDF et on ne répond pas parce que EDF a eu une stratégie Amérique du Sud, Europe de l'Est, Chine et on a, je ne sais pas pourquoi. Alors que l'actionnaire principal est le gouvernement de la République à 85%, on n'a jamais imposé à EDF de prendre le chemin de l'Afrique. Là, c'est une bonne nouvelle et quand j'entends les propos de Valérie Lefkov, je trouve ça encourageant et j'espère que on va arriver à traiter des sujets concrets et que EDF va s'engager sur de véritables projets et Dieu sait s'ils sont nombreux en Afrique aujourd'hui concernant l'énergie. Production, transport d'énergie, énergie nouvelle, et EDF est très bien placé pour les énergies nouvelles depuis un certain nombre d'années. C'est une partie de cette activité de ce groupe qui fonctionne très bien.
Est-ce que vous pensez que le retard peut être rattrapé, le retard d'EDF ? Alors, tout le monde ne vous voit pas, mais vous...
Oui, je pense qu'il faut se remettre au travail. Ça va être assez long, mais normalement, EDF doit être un partenaire dans le domaine de l'énergie d'un certain nombre de pays africains qui sollicitent EDF. Et EDF a eu une histoire africaine, ce qui fait que vous avez encore des Africains qui ont la nostalgie d'EDF. Comme dans le chemin de fer, on en parlera peut-être, les gens qui ont été dans la SNCF ont la nostalgie de l'époque du chemin de fer français. Donc il faut profiter de cette situation. Déjà, EDF a fait un effort au Congo-Brazzaville. EDF est engagé dans la construction d'un barrage au Cameroun, à Nachtigal. Donc voilà quelques indices qui sont intéressants et qui démontrent que là... il y a une opportunité pour EDF de se refaire une place dans ce domaine.
Alors une dernière question de Julien Clémenceau avant de terminer la première partie de cette émission et une réponse brève, Michel Roussin, s'il vous plaît.
Est-ce que vous trouviez quand vous étiez chez EDF que la politique était trop timorée ? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé quelque part à quitter l'entreprise, la politique africaine ?
La réponse, elle est courte, brève.
C'est non ?
C'est oui.
C'est oui ?
Oui. Une déception dans mon parcours parce que je me suis donné du mal et je n'ai jamais pu aboutir véritablement. Donc il y a une espèce de lassitude à la fin. Voilà, une frustration.
Une frustration de ne pas être entendu par les dirigeants d'EDF ?
Voilà.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous disait ?
On a toujours trouvé que ce que je faisais était très bien, mais ça n'embrayait jamais. Donc, on aime bien voir les choses se concrétiser, quel que soit le job qu'on fait.
C'était crier dans le désert, en quelque sorte, ce qui est assez africain.
Oui, enfin, crier dans le désert. Non, j'ai pu passer des messages. La preuve, c'est que petit à petit, les choses ont dû évoluer chez EDF.
Eh bien, c'est la fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité, toujours avec Michel Roussin.
Écho d'ici. Écho d'ailleurs sur RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie d'Écho d'ici Écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique, nous recevons Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération, aujourd'hui conseiller de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Michel Roussin, nous avons évoqué dans la première partie de cette émission les relations économiques entre la France et l'Afrique et votre parcours dans cet univers. Venons-en maintenant au rôle précis que vous jouez actuellement dans le groupe Bolloré. Qui faites-vous ?
J'ai le rôle qu'ont tous les dinosaures, c'est-à-dire que j'ai un job de conseil, de suivi. J'entretiens des relations avec nos partenaires africains que je connais. Je suis aussi engagé dans la gestion d'une entreprise ferroviaire en Côte d'Ivoire, Citarail, qui est une compagnie qui permet de rejoindre Ouagadougou en passant par Bobo-Dioulasso depuis Abidjan. Donc c'est un espèce de cordon ombilical qui permet de désenclaver.
Quand vous dites que vous êtes engagé, ça veut dire quoi concrètement ?
Engagé, ça veut dire que je suis sollicité pour ce que je sais faire, mais je ne suis plus dans la boucle hiérarchique, dans le processus de décision, parce que ce n'est plus mon rôle.
Et est-ce que vous savez faire ? Comment le définiriez-vous ?
C'est assez simple, un homme d'influence et de bonne influence.
C'est-à-dire ?
Eh bien, je suis tel que je suis avec mes réseaux. Alors tout de suite, on frémit quand on entend réseau. Je facilite parfois un certain nombre de choses. Je relais sur Paris des critiques qui peuvent être faites ou des souhaits qui sont exprimés. Et je suis un collaborateur intelligent au sens d'information et de circulation de cette information, mais je n'ai plus l'âge d'être dans la hiérarchie, dans l'action de ce groupe.
Votre âge, 77 ans.
Oui.
Depuis deux jours.
Oui.
Julien Clémenceau.
Votre rôle n'est-il pas d'aider le fils de Vincent Bolloré, Cyril, à prendre la mesure de la division logistique qu'il dirige ?
Alors j'ai d'excellentes relations avec Cyril Bolloré, on a souvent des échanges, mais vous l'avez peut-être rencontré ou certains en Afrique qui nous écoutent savent qu'il s'y est déplacé plusieurs fois. Il a pris la mesure de sa responsabilité,
il est très jeune, il a
30 ans, mais aux âmes, etc., on connaît la citation.
Aux âmes bien nées.
Voilà, la valeur n'attend pas le nombre des années. Non, mais redevenons sérieux. Effectivement, donc j'ai avec lui des échanges, mais je ne suis pas un guide ou un mentor. Nous avons des relations très anciennes. Je l'ai connu il y a quand même de nombreuses années. Et je trouve, alors là, c'est mon opinion, je trouve qu'il a bien pris la mesure des choses. Il vient d'effectuer un court séjour en Côte d'Ivoire, sur des sujets complexes, il a rencontré les plus hautes autorités, donc il est immergé dans cette vie maintenant de ce groupe français qui est engagé en Afrique subsaharienne.
Comment définiriez-vous, Michel Roussin, la stratégie du groupe Bolloré en Afrique ?
La stratégie en Afrique, c'est celle du développement du groupe dans ses activités, puisqu'on est dans 45 pays en Afrique et qu'on y est depuis 32 ans. Nous sommes engagés dans tout ce qui concerne la logistique, le transport maritime, la gestion de terminaux portuaires, le transport ferroviaire et le transport routier. C'est-à-dire qu'on a une mission de logisticien et qu'on assume à la satisfaction de ceux qui nous donnent des orientations et des directives. Et nous avons aussi la charge d'être un employeur important, puisque en Afrique, ça compte, près de 37 000 salariés du groupe sont dans des activités diverses. On réinvestit tous les ans pour moderniser le job qui est fait sur ces terminaux portuaires, sur le chemin de fer. Et puis, on a aussi un rôle de formation important, parce que c'est nécessaire en Afrique. On a un rôle social, on accompagne les personnels et on fait en sorte qu'il y ait une véritable promotion africaine au sein des filiales du groupe et au sein des états-majors régionaux.
C'est-à-dire c'est plus parisien qui dirige l'entreprise ?
Voilà. Et ça, on y est arrivé. Le processus a été assez long. Mais maintenant, vous avez des directeurs régionaux qui sont africains, des directeurs financiers qui sont africains. De plus en plus, le groupe est africain.
Julien Clémenceau.
Via Vivendi, Vincent Bolloré est aussi présent dans le domaine de la télévision, des médias. En France, le groupe Canal+ connaît d'importantes difficultés. On l'a vu encore récemment avec la vente d'ITélé. Est-ce que le salut peut venir de l'Afrique pour Canal+ ?
Vos observations sont justes. Je pense qu'il y a effectivement la volonté pour Vivendi et donc pour Canal, qui réussit pas mal en Afrique, de développer les activités de Canal en Afrique, parce qu'il y a là maintenant, compte tenu de l'importance de la croissance démographique, une clientèle tout à fait apte à recevoir ces émissions, participer aux émissions. Et pour Canal, c'est la possibilité aussi de contacter de nouveaux talents, de pouvoir faire en sorte qu'à Paris, par exemple, on voit un certain nombre d'Africains, musiciens, acteurs, etc., s'exprimer, participer à la vie culturelle ici et développer leurs activités en Afrique. Donc, effectivement, Canal doit être un excellent vecteur et une opportunité de développement sur le continent aujourd'hui.
Mais est-ce que ça n'est pas une deuxième étape dans la stratégie du groupe après avoir s'être installé dans la logistique, c'est-à-dire une Afrique très traditionnelle, très orientée autour du transport des matières premières, du commerce, de l'extérieur? Là, vous vous intéressez maintenant à cette Afrique classe moyenne qui émerge.
Voilà, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Cette activité qui maintenant est dans le groupe permet d'être plus moderne et de s'adapter à cette évolution sociologique, démographique et aussi économique. Parce que, vous le savez très bien, on est tout le monde a un portable en Afrique, les réseaux Internet se multiplient, le nombre d'entreprises qui essaient de placer des réseaux Internet, etc. Enfin, on vit, et cette partie des activités du groupe est tout à fait intéressante, parce que, effectivement, l'Afrique demeure une voie de développement incontestable.
Alors, Michel Roussin, parmi les grands projets de votre groupe, on revient à la base de ce que fait Bolloré en Afrique, il y a la boucle ferroviaire qui doit permettre de relier Abidjan à Cotonou. Cette boucle passerait par le Burkina et le Niger, à Niamey au Niger. L'inauguration de la gare a eu lieu le 8 avril 2014. Il y a donc à peu près 2 ans. RFI avait alors diffusé ce reportage de son correspondant Moussa Kaka.
Les Nigériens ont attendu près de 80 ans pour voir enfin un rêve se réaliser. Un train à Niamey, la gare a été inaugurée. Les Nigériens ont saisi la portée historique de l'événement. Le président Issoufou Mahamadou.
La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui constitue un événement historique majeur parce qu'elle symbolise le début de la réalisation d'un rêve, celui de voir notre pays si fortement enclavé, relié à la mer par chemin de fer.
La réalisation de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan est sur les rails. Pour le PDG du groupe Bolloré en charge du projet, c'est un challenge à relever.
C'est un moment très important parce que les habitants du Niger attendent depuis plus de 70 ans qu'il y ait un train qui leur permette d'importer des marchandises, exporter des marchandises, mais surtout permettre aux habitants du Niger de se déplacer. Donc c'est le premier pas, le premier kilomètre, très important, la première gare de Niamey.
L'arrivée du train au Niger est également saluée par la Chambre de commerce. Son président Moussa Sidi.
Parce que l'arrivée du train va impacter beaucoup sur l'économie du Niger et surtout ça va faire en sorte, en ce moment où tout le monde se plaint de la chèreté des prix, à essayer de réduire les prix et avoir des produits à des prix abordables.
Plus que 574 km jusqu'à Parakou au Bénin et le train sifflera enfin à Niamey.
C'était donc un reportage de Moussa Kaka à Niamey, une question de Julien Clémenceau.
Dans ce reportage, on entend bien l'intérêt du Niger, mais quel est l'intérêt de Vincent Bolloré et du groupe qui porte son nom? Quel sera le modèle économique de cette boucle?
Ce sera le développement de l'activité ferroviaire. C'est quoi pour Vincent Bolloré, pour le groupe? c'est la possibilité de désenclaver toute cette Afrique sahélienne. Déjà, Sitaraï est une partie importante de la boucle qui monte vers le Burkina Faso et qui doit rejoindre le Niger. Nous avons là 145 km de voies qui viennent d'être construites au Niger. Et cela doit rejoindre l'ancien chemin de fer du Bénin qui démarre à Cotonou et qui remonte vers Parakou et Niamey. L'OCBN, c'était le nom de cette société de chemin de fer, est en ce moment en train de réhabiliter une partie de ce réseau. C'est une opération qui se déroulera sur le long terme puisque on est dans nos plans sur 5 ans de travaux. Donc cette boucle sera utile parce que elle permettra de désenclaver ces pays, de permettre d'une part d'assurer un service public, c'est-à-dire le transport des personnes, mais surtout le transport des marchandises, des minerais. Le Sitaraï, la société que je dirige, descend le bétail. On a des rames entières de bétail qui descendent du Burkina Faso pour être ensuite consommées, si j'ose dire, à Abidjan et ailleurs. Donc il y a les minerais, les produits agricoles, c'est essentiel à mon sens. Et on a longtemps eu ces projets dans les cartons en France. On n'est jamais allé au bout de ces projets, les administrations précédentes, il y a très longtemps. Et là, un investisseur privé prend le relais à des années plus tard de ce qui avait été imaginé dans les années 20.
Mais Vincent Bolloré va investir environ 2,5 milliards d'euros dans cette boucle, peut-être plus. Comment va-t-il se rembourser? Est-ce que c'est l'activité qui va le rembourser? Est-ce que les pays vont payer des loyers? Comment ça fonctionne?
On a du mal à croire que c'est en descendant du bétail et du cheptel qu'ils puissent...
Et j'ai dit aussi des minerais.
Oui.
Voilà. Le problème, c'est de transporter. De toute façon, toutes ces sociétés sont des sociétés patrimoniales. La société patrimoniale, c'est un État et un autre État qui sont d'accord pour confier la gestion et un contrat de concession à un opérateur privé à charge pour lui de faire un certain nombre d'investissements. Donc, l'activité de cette boucle ferroviaire sur le long terme, grâce à ces contrats de concession qui sont signés entre les États partenaires, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Bénin, permet sur le long terme de revenir sur les investissements.
Alors cet écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, Michel Roussin est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Michel Roussin, le groupe auquel vous appartenez se voit souvent reproché d'agir à la hussarde. C'est un reproche qui a pu être fait en 2014 quand le gouvernement ivoirien vous a attribué la concession du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan. À l'époque, même le ministre du Commerce et des PME, Jean-Louis Billon, s'en était ému au micro de Maureen Grisot pour RFI. On l'écoute.
L'obtention du deuxième terminal est surprenante parce que, une situation monopolistique sur le premier, des coûts prohibitifs sur le premier, et comme par miracle, il ressort meilleur sur le second, avec une offre technique au départ qui était beaucoup moins intéressante que les concurrents. Et l'offre financière, il est normal qu'ils mettent l'offre financière la plus importante, parce qu'il se paie un monopole, et il met une prime au maintien du monopole. C'est dommage que d'autres ne l'aient pas compris.
Vous dites que Bolloré s'est payé un monopole. Est-ce qu'il s'est payé des personnes aussi en Côte d'Ivoire pour obtenir ce contrat?
En 2004, j'avais été approché par quelqu'un du groupe Bolloré qui m'a fait des propositions pour réviser ma position par rapport au terminal à conteneur numéro 1 à l'époque. Je n'ai pas révisé ma position. Je ne serais pas surpris si demain on me disait qu'il y avait des problèmes de gouvernance dans l'attribution du deuxième terminal. Pour moi, je mets de sérieux doutes là-dessus.
C'était donc Jean-Louis Billon, ministre du Commerce et des PME ivoirien, micro de Maureen Grisot. Michel Roussin, comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration faite il y a déjà 2 ans?
Oui,
est-ce que ces procédés en cours au sein du groupe Bolloré?
Non, bien sûr. Bien sûr que non. Et je trouve étonnant, je connais ce ministre, qu'il ait cette réaction alors que il est membre d'un gouvernement et que je sache, les contrats de ce type passent au crible des décideurs politiques. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, comment le groupe a réagi à l'époque quand le ministre Billon a fait ses déclarations, puisque moi je n'étais pas dans le groupe, mais je découvre cette déclaration aujourd'hui. Pour moi, c'est une surprise d'entendre un ministre, membre d'un gouvernement, porter un tel jugement sans preuve particulière sur les activités d'un groupe qui est partenaire de l'État ivoirien depuis, comme on dit en Afrique.
Oui, c'est-à-dire depuis Mathusalem.
Depuis 35 ans, le groupe est en Afrique. Et donc, je viens d'entendre cet enregistrement, une approche de quelqu'un qui vient en 2004. Enfin, tout ça me paraît. Voilà,
c'est un témoignage. Un peu étonnant. Sur ce plan-là, c'est un témoignage, puisqu'il dit lui-même avoir été contacté.
Eh bien, c'est un témoignage, c'est parfait, mais ça n'a pas empêché le groupe d'obtenir et d'opérer, et dans des conditions qui sont parfaitement transparentes et qui sont contrôlées par le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire.
Vincent Bolloré entretient des liens personnels avec certains chefs d'État, je pense notamment à Alpha Condé en Guinée. Est-ce que vous comprenez que ça puisse parfois alimenter des soupçons de favoritisme, cette proximité ?
De toute façon, chaque fois que vous avez un ami dans ces sphères, on dit toujours « Ah, là, attention, il y a Anguille Souroche, ils sont très copains depuis très longtemps, etc. » L'histoire de l'amitié de ces deux personnalités est quelque chose de très très ancien et remonte à une époque où Alpha Condé n'avait aucune responsabilité particulière. Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps, ont des affinités. Alors, peut-être que cela crée un climat favorable, mais quand il y a des règles d'appel d'offres, on est obligé de s'aligner et d'être bon dans la compétition. Néanmoins, je considère comme vous que l'amitié qui existe entre deux personnes crée un climat de plus grande confiance.
Mais vous nous présentez une Afrique archi-transparente, où toutes les règles d'appel d'offres sont toujours respectées. C'est ça l'Afrique aujourd'hui ?
Au début de mon propos, tout à l'heure, je vous ai dit que l'Afrique avait fait d'énormes progrès dans ce domaine. Mais tout n'est pas parfait. Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine, dans le domaine de la transparence, dans le domaine de la justice en Afrique, dans le domaine de la
lutte contre la corruption.
De la lutte contre la corruption. Et ce qui est formidable, c'est que maintenant les Africains en parlent, évoquent la corruption, la lutte contre la corruption. C'est un nouvel état d'esprit, c'est ça que je remarque. Et donc, il faudra du temps, mais vous avez tout à fait raison, rien n'est totalement transparent. On est néanmoins sur la bonne voie.
Je reviens sur cette amitié avec Alpha Condé. Ça a ressurgi dans l'actualité il y a quelques semaines avec une perquisition au siège de Bolloré dans le cadre d'une enquête sur les concessions qui ont été attribuées à Lomé et à Conakry. Est-ce que ça a été une surprise pour vous, cette perquisition ?
La perquisition a eu lieu, tout le monde en a parlé, mais enfin, ça concerne des affaires anciennes et on verra bien comment vont se dérouler les choses.
On a parlé du rôle qu'aurait pu jouer Havas, qui a géré la communication lors des élections présidentielles au Togo et en Guinée.
Alors tout ça, je l'ai lu, comme vous, dans la presse. Mais je n'ai pas d'informations particulières et je ne pense pas qu'il y ait une confusion des genres entre la partie transport, logistique et puis la partie c'est-à-dire Havas, qui est dirigée par Yannick Bolloré.
Revenons à Abidjan. Bolloré a maintenant les deux terminales à conteneurs du port. Donc c'est un monopole. Est-ce que une situation monopolistique comme ça est bonne pour l'économie ivoirienne ? Est-ce que l'absence de concurrence sur ce terrain-là est positive ?
Il n'y a pas un monopole. Il y a d'autres opérateurs qui sont des partenaires de Bolloré. C'est pas Bolloré qui est installé sur
sur le terminal. Il y a d'autres opérateurs qui sont des opérateurs européens, des opérateurs chinois avec lesquels on a des accords. Bolloré n'est pas le maître du port d'Abidjan. Il faut être raisonnable, franchement. Hein.
Alors.
Il suffit de se promener sur le port, de se balader, d'aller voir comment sont organisés ces deux terminaux pour s'apercevoir que ça n'est pas le monopole de Bolloré. Et quand on parle de monopole, ça veut dire entreprise puissante, etc. N'oublions jamais de rappeler aussi que développant des activités en Afrique, le groupe est aussi un gros contribuable et qu'il participe de façon très significative à la vie économique et à la recette fiscale du gouvernement à Abidjan. Donc, cette image est toujours assez floue. Il y a le côté grosse entreprise, etc. Mais la grosse entreprise, elle fait son job, elle est dans la vie de la cité, elle fait, comme je le disais tout à l'heure, de la formation, de la promotion, du social, etc.
Vous pensez que si ce n'était pas le groupe Bolloré qui emportait ces marchés, ce seraient par exemple les entreprises chinoises qui les prendraient? Mais ma question c'est, est-ce que Bolloré est en concurrence directe avec les Chinois et est-ce que vous craignez cette concurrence chinoise?
Je ne pense pas qu'on craigne la concurrence chinoise parce que dans un certain nombre d'activités, on est en partenariat avec les Chinois. Et le groupe n'a jamais considéré, puisqu'on travaille en Chine, aussi, Bolloré, c'est pas seulement l'Afrique. Et donc, on a eu des partenariats avec les Chinois, et je pense que pour les entreprises françaises, au lieu de considérer en permanence le Chinois comme un adversaire en Afrique, de chaque fois dire mais que vont faire les pouvoirs publics français, que va faire Bercy, est-ce qu'on va nous aider, que va faire la COFAS, etc. On a peut-être intérêt parfois à faire un bout de chemin en direction des Chinois et travailler avec eux, ce que par exemple a fait EDF en Chine et ailleurs, avec dans le cadre d'un partenariat accepté par le gouvernement français. Donc la solution, ça n'est pas de considérer le Chinois comme un adversaire sur le continent, mais bien sur un partenaire possible, car les Chinois ont évolué eux aussi en Afrique. On n'est plus dans le schéma qui est « je te construis un stade et un hôpital et je vais exploiter tes recherches, tes ressources minières pendant une année ». Les choses ont évolué. Il y a eu cette période-là, mais très vite, les Africains se sont ressaisis. Et maintenant, les rapports sont beaucoup plus réglementés entre les opérateurs chinois et les gouvernements. Et les partenaires possibles sont maintenant rassurés. La facilité des Chinois, c'est qu'ils arrivent avec leur financement, alors que nous, les Français, et parfois les Européens, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, il y a un avantage. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas s'engager dans un partenariat avec les Chinois?
Julien Clémenceau.
Combien de terminaux portuaires exploitez-vous en Afrique?
Une douzaine.
Et est-ce que vous cantonnez uniquement aux anciennes colonies françaises?
Non, non, non. On est aussi dans les pays anglophones, comme le Nigeria, dans les pays lusophones, comme l'Angola, le Mozambique. Voilà, donc on n'est pas seulement piégé, on est à Port-Soudan. Enfin, il y a vraiment une activité sur l'ensemble du continent et un développement qui s'effectue. Quand je disais une douzaine, c'est 15 terminaux portuaires. Donc, effectivement, la majorité se situe en Afrique francophone, mais je vous ai cité donc des pays et non des moindres puissances économiques, l'Afrique du Sud aussi, où Bolloré est présent.
On va terminer sur une question un peu plus générale, Michel Roussin. Cet essor du groupe Bolloré au cours des dernières années, il s'était effectué sur un fonds de croissance économique très forte en Afrique, elle-même sur fonds de montée des cours des matières premières. Cette période-là semble terminée, les cours des matières premières ont beaucoup baissé, la croissance africaine commence à stagner, voire à être beaucoup moins forte. Est-ce que vous ne craignez pas que cela entrave l'essor de votre groupe en Afrique? Plus généralement, que pensez-vous de la situation économique du continent?
Alors, votre observation est juste. C'est vrai que le cours des matières premières diminue. En particulier, celui du manganèse. C'est un sujet que je suis parce que je suis ce qui se passe au Gabon dans le domaine de la gestion du manganèse. Donc, effectivement, on est... Mais les matières premières, c'est toujours fluctuant. Un jour ou l'autre, ça remonte. Regardez le pétrole, récemment, il y a eu de nouveaux frémissements. Donc, ça n'est pas d'un seul coup le développement qui s'arrête. Il y a une baisse, mais néanmoins, quand vous avez un continent où la population, la moitié de la population a moins de 25 ans, le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter, les activités, on ne peut pas penser un instant que l'Afrique va s'arrêter.
Par contre, l'émission s'arrête, Michel Roussin. À la fin du temps qui nous est imparti, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à Julien Clémenceau de nous avoir accompagnés dans cette émission, à Victor Ouvrard d'avoir réalisé et mis en onde cet écho, ici écho d'ailleurs, consacré à Michel Roussin, à ses vues sur l'Afrique et à son rôle au sein du groupe Bolloré. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.